Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Namoury Dosso.
Merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver jusqu'à 9h, temps universel, l'antenne est à vous. Pendant 30 minutes, la libre antenne, comme chaque vendredi, vous avez la possibilité de réagir au sujet de l'actualité de votre choix. La mort du pape, la politique en Côte d'Ivoire avec la radiation de Tidiane Thiam ou encore le voyage de deux jours d'Emmanuel Macron à Madagascar. Vous avez été très nombreux à commenter ces sujets d'actualité. On y revient donc dans la libre antenne, dans la seconde partie de l'émission. Vos réactions nous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter. Le standard est ouvert 33 9 693 693 70. Je lirai également les nombreuses réactions et commentaires que vous nous avez fait parvenir sur le WhatsApp et le Facebook de l'émission. Enfin, nous retrouverons également le regard de Jessica Taïeb qui a scruté les réseaux sociaux en ébullition depuis l'annonce de la mort du pape François ce lundi. Mais d'abord, votre traditionnel rendez-vous pour mieux saisir et comprendre l'actualité avec les questions des auditeurs auxquelles répondent des journalistes et des experts que nous avons invités. On débute avec la situation de Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire, une figure emblématique de l'opposition frappée par la foudre judiciaire. Le chef du PDC-IRD a été radié de la liste électorale par une cour d'Abidjan au motif de sa double nationalité. Et donc, pour en parler, nous recevons Christophe qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Christophe.
Bonjour Namoury Dosso, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Soyez le bienvenu Christophe. Pour répondre à vos interrogations, nous sommes en ligne avec Binta Diane, correspondante permanente de RFI en Côte d'Ivoire. Bonjour Binta.
Bonjour Namoury et bonjour à tous.
Christophe, on écoute votre première question.
Comment la justice ivoirienne justifie-t-elle la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale?
Binta Diane vous répond.
Alors, la justice estime que Tidiane Thiam n'était plus ivoirien au moment où il s'est inscrit sur la liste électorale en 2022. Elle s'appuie sur l'article 48 du Code de la nationalité qui stipule que l'ivoirien majeur perd la nationalité ivoirienne s'il acquiert volontairement une nationalité étrangère. Or, Tidiane Thiam a été naturalisé français par décret le 24 février 1987. Pour le tribunal, Tidiane Thiam a donc perdu la nationalité ivoirienne à ce moment-là, donc en 1987. Et par conséquent, le certificat de nationalité qu'il a utilisé pour s'enrôler en 2022 est inopérant et dépourvu d'effet, estime le tribunal. Les avocats de Tidiane Thiam ont tenté de prouver qu'il est né français et donc que cette disposition du code de la nationalité ne s'applique pas à leurs clients. Ils ont notamment apporté à son dossier une copie de naissance de son père, Amadou Thiam, établi par le centre d'état civil d'Abidjan en 1949, un document portant la notion état civil européen EC 1962 et une copie d'un acte de naissance. Mais le tribunal n'a pas été convaincu par ces pièces. Tidiane Thiam est né ivoirien de père et de mère, dit-on dans la décision rendue mardi. Tidiane Thiam n'était pas ivoirien, il ne pouvait pas s'inscrire sur la liste électorale au moment de sa révision en 2022, lit-on dans cette décision. Pour le tribunal, c'est seulement le 19 mars dernier que Tidiane Thiam est redevenu ivoirien. Cela correspond à la date à laquelle un décret français confirme la perte de sa nationalité française.
Voilà pour la première réponse. Christa, vous aviez une seconde interrogation.
Pourquoi ce dernier dénonce un déni de justice?
Binta Diane à Abidjan.
Tidiane Thiam estime être victime d'un harcèlement judiciaire monté de toutes pièces par le gouvernement ivoirien. Le parti au pouvoir a utilisé les tribunaux pour éliminer son rival le plus sérieux, tout en maintenant l'illusion d'une procédure régulière, écrit-il dans un communiqué diffusé mardi soir. Des accusations rejetées à la fois par le RHDP et le gouvernement. Le droit a été dit, indique Amadou Koulibaly, le ministre porte-parole du gouvernement. Nous sommes en train de bâtir un état de droit, poursuit ce responsable, invoquant le respect du principe de séparation des pouvoirs. Je ne vois pas où le gouvernement intervient, conclut ce responsable.
Enfin Binta, quelle stratégie Tidiane Thiam compte-t-il mettre en place pour contrer cette décision judiciaire?
Alors actuellement, Tidiane Thiam est en France depuis quelques semaines. Il mène des actions médiatiques et diplomatiques pour faire entendre sa cause. Il demande par ailleurs l'ouverture d'un dialogue politique pour trouver une solution. Sur le plan administratif, plusieurs pistes ont été évoquées. Il compte se pourvoir en cassation ou encore porter son dossier devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, selon Soumaïla Bredoumi, le porte-parole du PDCI.
Christophe, avons-nous répondu à vos interrogations ? Eh bien, on vous remercie également et belle journée dans la capitale camerounaise, ainsi qu'à tous les fidèles auditeurs qui nous écoutent sur le 105.fm au Cameroun. Nous accueillons désormais Diamondra qui nous appelle d'Antananarive, la capitale de Madagascar, où il est actuellement 11h16. Bienvenue Diamondra.
Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de RFI. Bonjour Namori Dosso.
Alors, vous souhaitiez revenir sur la visite de deux jours d'Emmanuel Macron, le président français, sur la Grande Île. Afin d'écouter vos questions et également d'y répondre, nous avons fait appel à Denis Sacha Robin, spécialiste en droit international de la mer à l'Université Paris-Nanterre. Denis Sacha Robin, soyez le bienvenu.
Bonjour, merci beaucoup.
Alors, Diamondra, on écoute votre première interrogation.
Merci. En fait, ma question, c'est que le président français, effectivement, s'est rendu à Madagascar pour une visite d'État. Et je me pose des questions, notamment sur le dossier de la souveraineté des îles Éparses. Et du coup, en quoi la question de ces îles est-elle centrale pour la coopération franco-malgache ? Merci.
Oui, c'est effectivement une question intéressante et je crois que pour bien y répondre, il faut contextualiser d'abord un tout petit peu. En fait, il existe un différend entre la France et Madagascar, donc un désaccord sur la souveraineté sur les îles éparses du canal du Mozambique. C'est un désaccord qui existe depuis les années 70. Alors pourquoi ? Parce que, en fait, avant l'indépendance de Madagascar, les îles relevaient de la colonie française de Madagascar. Et puis, quelques semaines avant l'indépendance, elles ont été détachées par le gouvernement français pour rester sous la souveraineté française. Alors, est-ce que cette opération était licite ou non ? Est-ce que c'était autorisé ou non ? La question se pose. Et sur ce point, on peut souligner quand même deux choses importantes. D'un côté, il y a des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies datant de la fin des années 70 qui demandent à la France d'ouvrir des négociations pour rétrocéder des îles considérées comme arbitrairement détachées de Madagascar. Et puis, d'autre part, il y a un avis de la Cour internationale de justice de février 2019 sur le cas des îles Chagos qui ont été détachées par le Royaume-Uni de Maurice juste avant son indépendance. Donc c'est une situation assez similaire. Et dans ce cas, la Cour a considéré qu'il s'agissait d'une décolonisation inachevée. Donc on voit que les arguments de Madagascar, en fait, sur le cas des îles Éparses, peuvent éventuellement être assez convaincants. Et la France ne doit pas braquer les représentants malgaches sur cette affaire. Alors de là, on en revient à votre question. En quoi est-ce central pour la coopération entre les deux ? On voit que les deux États sont dans une position diplomatique un peu délicate. Il faut que chacun puisse en fait obtenir de l'autre des concessions. Et le premier intérêt, ce serait pour la France surtout de mettre le différend en sourdine pendant quelque temps, en envisageant ou d'accepter de coopérer, voire de co-gérer les îles et les zones maritimes environnantes avec Madagascar. Du côté de Madagascar, ça lui permettrait peut-être d'accéder aux ressources importantes du canal du Mozambique, peut-être avec l'appui d'entreprises françaises, ça on ne sait pas encore. Ça permettrait aussi aux deux États de se mettre d'accord et de permettre à la France d'assurer la sécurité dans une zone commerciale de transit sensible où il y a des trafics, de la pêche illicite, où par ailleurs, plus largement, l'influence de la Russie, de l'Inde ou la Chine augmente. Et donc on voit que les deux États, en fait, ont bien des intérêts communs qui fonderaient une coopération au-delà du différend sur la souveraineté, et ce sera le rôle d'ailleurs d'une commission mixte franco-malgache qui devrait rouvrir les discussions en juin.
Alors voilà pour votre première question, Diamondra. Vous aviez une deuxième interrogation pour notre invité.
Ma deuxième question, c'est que du coup, cette visite du président français peut-elle aboutir à faire concrètement évoluer le dossier sur la souveraineté de ces îles ?
Denis Sacha Robin.
Et je crois justement qu'à la lumière des premiers éléments de réponse, a priori non. En fait, les deux États sont très attachés à leurs revendications de souveraineté sur ces îles. Ils en font tous les deux une question d'identité nationale. Pour Madagascar, il s'agit d'achever un processus de décolonisation. Pour la France, c'est une question de prestige, de puissance. Ça lui permet de s'affirmer comme une puissance maritime régionale. Les îles Éparses, dans le canal du Mozambique, c'est 350 000 km² de zone économique exclusive. Et donc, dans les faits, ça offre à la France un contrôle d'une grande partie du canal et même un monopole sur l'exploitation éventuelle des ressources de la zone. Et donc, c'est peu probable que les deux États évoluent quant à leur position sur la souveraineté. Ils ont plutôt tout intérêt, au contraire, à laisser cette question de côté et à mettre en place des coopérations concrètes.
Diamondra, avons-nous répondu à vos interrogations ?
Oui, effectivement. Tout a été clair.
Eh bien, nous vous souhaitons une excellente journée à Antananarivo, la capitale de Madagascar. À noter que le chef d'État français a annoncé hier l'installation d'une commission mixte franco-malgache d'historiens autour de 1947 et des guerres de décolonisation et des atrocités qui ont été commises à cette époque. Emmanuel Macron qui a également déclaré vouloir créer les conditions du pardon de la colonisation de l'île lors d'une séquence mémorielle au palais du Rova dans la capitale malgache. Merci de nous écouter. Il est actuellement 10h21 ici à Paris, 8h21 en temps universel. Restez avec nous, nous sommes vendredi, c'est le jour de la libre antenne. Dans la deuxième partie de l'émission, vous pourrez réagir à l'actualité de votre choix. Qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine? Qu'est-ce qui a suscité en vous des réactions, des commentaires ou des coups de gueule? L'antenne est à vous dans la deuxième partie. On vous attend au standard 33 9 693 693. 70. En attendant, place au rendez-vous, un œil sur les réseaux avec Jessica Taïeb qui nous a rejoint en studio. Bonjour Jessica.
Bonjour Namoury.
Alors vous avez scruté pour nous X, TikTok ou encore Instagram. Et cette semaine, c'est sans surprise la mort du pape François qui a mis les réseaux sociaux en ébullition.
Des centaines de milliers de publications postées pour lui rendre hommage sur X, Facebook et TikTok. Et pendant que les cardinaux s'apprêtent à se réunir à huis clos pour choisir le prochain pape, les internautes ont déjà lancé le conclave des réseaux sociaux. Alors chacun y va de son pronostic. Hein, et c'est Dominique Tarczynski qui a ouvert le bal quelques heures après la mort du pape, le Polonais, député européen d'extrême droite, a tweeté « Cardinal Sarah, notre espoir ». Une publication donc en soutien au cardinal guinéen qui a été vu, tenez-vous bien, plus de 55 millions de fois.
Un chiffre considérable donc. Et dans les commentaires, hein, une question revient très souvent, Jessica. Un Africain peut-il succéder au pape François?
Trois cardinaux issus du continent africain sont souvent cités. Hein. Peter Turkson, le Ghanéen, le Congolais Fridolin Ambongo et le Guinéen Robert Sarah. Et ce sont surtout ces deux derniers qui ont enflammé les réseaux sociaux. Je vous lis quelques réactions. Prions pour le pape François et pour son successeur potentiel, le cardinal Robert Sarah, que l'Église puisse s'attacher à nouveau fermement à ses traditions. Et il est également beaucoup soutenu par les internautes guinéens, forcément, je cite, « Ce matin, j'étais tout excitée de dire à mes collègues et à mon patron que, oui, le cardinal Robert Sarah vient de chez moi, la Guinée. »
Mais les prélats suscitent également beaucoup, beaucoup d'inquiétudes et de critiques. Hein. Il s'est illustré dans les médias par ses prises de position très, très conservatrices, en particulier sur l'immigration et l'homosexualité.
Sur X, un thread vu plus de 3 millions de fois détaille, selon son auteur, pourquoi le cardinal Sarah ne doit pas être nommé pape. On peut y lire notamment « Ce n'est pas parce qu'il est africain que nous devons automatiquement soutenir sa candidature. L'Afrique mérite mieux qu'un conservatisme hérité du clergé colonial. »
Alors Jessica, pour le cardinal de RDC Fridolin Ambongo, la polémique se trouve ailleurs.
Oui, une personnalité qui divise les internautes congolais. Fridolin Bongo, c'est un prêtre engagé pour la justice sociale, mais aussi l'une des voix les plus critiques du régime de Kinshasa. Et dans le contexte actuel, il ne fait pas l'unanimité. Je vous partage quelques commentaires. Fridolin Bongo s'est tristement distingué par un activisme politique excessif. L'Église congolaise a besoin de bergers fidèles et non de politiciens vêtus de soutane. Et celui-ci, qui au contraire défend le cardinal congolais, tout notre soutien au prince de l'Église, Fridolin Ambongo, que le Très-Haut nous accorde la grâce historique de voir un pape congolais, un pape noir pour la première fois. Et je termine avec cet internaute qui analyse ce conclave numérique. Le pape ne sera pas voté sur Internet, mais avant le noir ou le blanc de la cheminée du Vatican, les réseaux sociaux concoctent des fumées grises pour les papabiles.
Et le conclave, le vrai, celui qui se déroulera dans la chapelle Sixtine, devrait se tenir entre le 5 et le 10 mai, le premier de l'ère des réseaux sociaux. À noter qu'RFI sera demain en édition spéciale pour les obsèques du pape François. Rendez-vous à partir de 8h, temps universel. Jessica, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel œil sur les réseaux sociaux. Autre sujet d'interrogation de la part de nos auditeurs dans cette première partie d'appel sur l'actualité. Friedrich Merz, le futur chancelier allemand, hier acclamé, aujourd'hui contesté d'après les sondages. Nous sommes en ligne de Kinshasa en RDC avec Jean-Baptiste. Soyez le bienvenu, Jean-Baptiste.
Merci beaucoup, Namouri, et bonjour à tous.
Alors, on écoute votre première question, Jean-Baptiste.
Alors, j'ai attendu sur RFI que le futur chancelier allemand faisait déjà face à une impopularité qui favorise la montée de l'extrême droite. Je vais en savoir un peu plus sur les raisons de son impopularité alors qu'il vient à peine d'être élu et qu'il n'a pas encore officiellement succédé à Olaf Scholz.
Olaf Scholz actuellement, chancelier en Allemagne. En effet, Jean-Baptiste, c'est ce qui ressort d'un récent sondage. Nous allons répondre à vos interrogations avec notre correspondant en Allemagne, Pascal Thibault, bonjour.
Bonjour.
Alors, Jean-Baptiste souhaitait savoir quelles étaient les raisons de l'impopularité de Friedrich Merz.
Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui se cumulent. Il y a sans doute le fait que d'abord Merz n'était pas, même avant les élections, extrêmement populaire. Le fait qu'il est obligé de faire, après un accord de coalition avec les sociodémocrates, donc un parti de gauche, un programme qui ne correspond pas à des propositions radicales qu'il avait faites. On pense à la politique migratoire où il a dû mettre de l'eau dans sa bière. On pense aussi au fait que les chrétiens démocrates, avec ce qu'on a appelé le bazooka, c'est-à-dire ces investissements massifs qui vont être votés avec un endettement, plusieurs centaines de milliards, d'euros, eh bien remettent en cause le principe d'une orthodoxie budgétaire stricte qui leur tenait à cœur depuis des années. Donc les électeurs sont sans doute un petit peu perturbés, irrités par ces changements, et ceux qui profitent sans doute à l'AFD, qui profitent donc d'électeurs chrétiens-démocrates déçus par ces volte-face, pourrait-on dire, de Friedrich Merz. Et puis peut-être un autre facteur, c'est le fait qu'on est dans une situation avec beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes sur le plan international, et on a un peu l'Allemagne qui est dans une période intermédiaire où on a un chancelier sortant qui gère les affaires courantes, Olaf Scholz, et le successeur qui doit malheureusement patienter encore jusqu'au 6 mai pour être élu.
Jean-Baptiste, vous aviez une autre question.
Oui, alors son impopularité croissante pourrait-elle engendrer une nouvelle crise politique en Allemagne?
Pascal Thibault vous répond.
Non, après il faut définir ce qu'on entend par crise politique. Je pense que on n'a pas d'élection cette année, on n'a pas d'élection avant un an en Allemagne. Le chancelier dispose, une fois qu'il sera élu, d'une majorité au Bundestag pour mettre en place les réformes qui ont été annoncées dans le contrat de coalition, ce qui va vraiment être important maintenant après ce recul dans les sondages. Effectivement, cette semaine, un sondage donnait même l'AFD devant la CDU à un niveau historiquement haut. Il va absolument très rapidement falloir prouver aux Allemands que ce gouvernement peut réformer, qu'il fait avancer les choses, qu'il réforme le système économique allemand qui a quand même des soucis, avec pour cette année une troisième année peut-être même de récession, ce qu'on n'a jamais vu depuis la fondation de la République fédérale après la guerre.
Jean-Baptiste, avez-vous été satisfait par les réponses apportées par notre correspondant à Berlin en Allemagne ?
Bien satisfait, merci beaucoup. J'étais heurté à la difficulté de prononcer les noms Olaf Scholz.
Ça arrive, c'est pas grave. Merci infiniment Jean-Baptiste. Belle journée à vous dans la capitale congolaise. On salue également tous nos auditeurs qui nous écoutent, que ce soit dans le nord ou dans l'est ou encore dans le sud de la RDC. Merci de votre fidélité. Merci également à Pascal Thibault, notre correspondant en Allemagne, qui répondait à vos questions ce matin. Il est actuellement 10h29 dans 30 secondes. Le journal sur la radio du monde, juste après cette édition africaine, la libre antenne d'appel sur l'actualité, consacrée à vos commentaires, réactions sur l'actualité de votre choix. Le standard est ouvert, 33 9 693 693 70. Je me ferai également le porte-parole des nombreux messages que vous nous avez envoyés sur les réseaux sociaux de l'émission. A tout de suite.